Bien bonsoir. Comment ça va tout le monde? Yo. Bonsoir à tous. On est là pour discuter ensemble de ce qui vient de se passer à l'UFC 262, où on a vu Charles Oliveira devenir le champion du monde de l'UFC dans un main event, ma foi, complètement ridicule. On a rarement vu un main event, genre, paquet de l'action comme ça dans un combat. Écoute, c'est vraiment complètement. Merde, je cherche encore mes mots. Basically, là, c'est ça qui arrive. Là. Je cherche encore la manière de vous expliquer comment ce main event-là avait aucun bon sens. Donc, man, okay, dès le premier round, tu vois que Michael Chandler, okay, il faisait mal à Charles Oliveira à chaque fois qu'il lui touchait. Et puis, on était sûr que c'est Chandler qui allait gagner. Il a réussi à pas à le dropper, mais à le forcer un peu à Panic Wrestle, l'attraper dans une solide guillotine. Il est allé avec le Dustin Poirier Special Edition, pull la guillotine complètement, et puis l'échappe. Il ne réussit pas à la finir, du moins, ou l'abandonne parce qu'il ne veut pas gazer ses bras. Et puis, à partir de là, il se retrouve en dessous de Charles Oliveira. Donne son dos à Charles Oliveira. Puis ça, c'est à ce moment-là que tu dis, oh non. Michael Chandler fait absolument tout en son pouvoir pour perdre ce combat-là, basically. Et puis, il réussit à sortir du dos, super explosif, il réussit à reprendre le top. Il revient debout, continue à faire mal à Charles Oliveira. Et puis, ça échange back and forth. Tu sais, Oliveira, c'est pas parce qu'il se fait faire mal qu'il est sur le reculon puis il fait rien. Au contraire, échange des mains avec Michael Chandler. Et puis là, le premier round se conclut. Puis on se dit, OK, c'est un round à Chandler. Puis d'après moi, s'il continue de se combattre comme ça puis à faire mal, tu sais, à Charles Oliveira chaque fois qu'il land clean, ben on va voir Michael Chandler remporter la ceinture de l'UFC. Le deuxième round commence. Premier échange en counter Charles Oliveira, le parfait petit left hook de la main, de sa main avant, le petit check hook qu'on appelle, puis le poignet directement sur le chin. Puis contrairement à Oliveira, quand il s'est fait faire mal par Chandler, puis qu'il se faisait genre bardasser de coups au sol, Dana qui swing la ceinture d'un balls à Big Dan. En effet, c'était quand même hilarant. Mais oui, quand Oliveira s'est fait ébranler, puis il se faisait ruer de coups au sol par Michael Chandler, on voyait qu'il bougeait sa tête, il essayait de se mettre dans une position pour plus recevoir ces coups-là. Quand il a droppé Chandler, Chandler s'est relevé de suite, mais il a mangé une rouée de coups. Puis quand il est tombé au sol, c'est basically faceplant. Il a reçu le ground and pound. Et puis Charles Oliveira, out of nowhere, dans un combat qui, oui, il a eu ses moments au premier round, mais qui n'allait pas en sa faveur, a fini Michael Chandler pour devenir le champion du monde de l'UFC. Et ce, à son. Écoute, j'ai pas les stats devant moi, mais le gars, il a 20 quelques UFC fight, là. Et ses 20 quelques, c'est probablement 25 et plus, probablement, selon moi. Parce que, tu sais, pour avoir le nombre de submission wins qu'il a, plus les défaites qu'il a eues. C'est un autre combattant qui a eu plusieurs défaites, tu sais, dans son parcours jusqu'à la ceinture de l'UFC qui a passé par 145. Puis on s'appellera tous quand il a fait le saut de 145 à 155. Il pétait absolument tout le monde à 155 livres, mais toutes ses entrevues d'après-combat, et il allait dire, oh non, faut que je retourne à 145. C'est ma bonne division. J'aimerais ça que l'UFC me laisse la chance de retourner à 145. Et puis, ben, ils n'ont jamais fait ça. Et puis finalement, ben écoute, ça, je pense que ça a été la bonne décision de ne pas le laisser aller là parce qu'aujourd'hui, c'est ton champion des 155 livres. Et puis, c'est ça qui est ça. Quelle performance, pareil, de Charles Oliveira, de revenir du dommage qu'il a mangé au premier round. Puis quel main event complètement ridicule. Et puis, Max, qu'est-ce qui peut se passer entre Oliveira qui knock Chandler ou Usman qui knock Chandler, mais il voulait dire Usman qui knock Masvidal. Et ben là, écoute, je pense. Yeah, c'est une bonne question, hein? Parce qu'on se disait tous que Kamaru Usman allait battre Jorge Masvidal. Mais ce qu'on disait, il va knocker Jorge Masvidal. Je pense que je vais dire Usman, tout simplement parce que Michael Chandler, il a déjà perdu par knockout. Là. C'était pas la première fois de sa carrière, tu sais, qu'il s'était fait finir par Patricky Pitbull aussi. Pitbull s'est fait dans Bellator. C'est là qu'il a perdu sa ceinture, 155 livres. Une coupe de combat avant de quitter Bellator. Donc, Charles Oliveira qui a profité de ça, puis je pense un peu moins surprenant, qui passe un knockout à Chandler que Jorge Masvidal qui se fait knocker. Même si dans l'axe, un peu de l'évolution de Kamaru Usman, on voit que Kamaru Usman knock de plus en plus du monde. On peut pas vraiment se surprendre qu'il knock du monde, le gars est excessivement puissant, mais knocker Masvidal, c'est vraiment quelque chose qui avait jamais été vu auparavant. Contrairement à Michael Chandler qui s'était déjà fait knocker. Donc je pense que c'est moins surprenant un peu, mais écoute, très belle performance pour vrai. Puis il faut être. C'est pas le choix d'être content pour Charles Oliveira, là, qui est juste nice comme dude, puis qui habite des favelas, man, à Rio de Janeiro, puis, et qui va finalement gagner la belt de l'UFC, puis rapporter ça là-bas. Puis c'est vraiment une belle histoire, puis c'est dur de pas être content pour lui. Il est super nice, puis je suis vraiment ravi de la tournure des événements que j'avais comme pas mal dit que je prenais pour lui. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Je suis bien content. Et on dirait que je continue à checker vos commentaires puis tout parce que j'ai pas envie de parler du co-main event. J'ai vraiment pas envie de parler du co-main event, les boys. C'est oh man. J'adore Benil Darius, c'est un autre gars pour qui je suis très, très, très content de la tournure des événements, du fait qu'il devient un top lightweight, là, basically, qui est en contention pour, pas pour le titre, là, maintenant, je pense pas que tu donnes un title shot à Benil Darius, mais il peut se battre contre Justin Gaethje, il peut se battre contre, tu sais, qui est quelqu'un, j'assume que le gagnant de Poirier-McGregor va probablement se battre pour la belt, en souhaitant vraiment que ça soit Dustin Poirier entre vous et moi, parce que vous le savez très bien que si Conor McGregor gagne ce combat, il va aller faire un petit combat de boxe contre un tel, ou faire un match de jujitsu contre Jake Paul, ou Dieu sait ce qu'il va coller, mais aller se battre pour le titre de l'UFC, ça risque de prendre du temps avant qu'il se décide de faire ça. Donc, on va espérer qu'il gagne Dustin Poirier pour qu'on aille ce title match-là, puis qu'on fasse peut-être un Darius face à Gaethje. Je pense que ça serait un très bon combat, mais t'sais, pour ce qui est du fight, c'est comme ce qui est arrivé. Il a fait ce que tout le monde a fait. T'sais, hey, c'est fou comme Tony Ferguson il est sur une trajectoire à la Tyron Woodley. C'est violent, le gars a littéralement perdu toutes les dernières rondes de ses derniers combats. C'était 5 rondes contre Gaethje, 3 rondes ses deux derniers combats. Fait que ça faisait des 11 derniers rondes, pas gagné, pas assez proche de gagner. Son striking ne marche plus. Honnêtement, son striking ne marche plus. Son combat au sol, ça, il a toujours été underrated au sol. Ses coups de coude en dessous, il était bizarre, c'est des soumissions un peu weird. Le fait avec un peu moins d'entrain, je pense que c'est vraiment le fall-off de Tony Ferguson là, qu'on est en train de voir. Il va falloir se faire à l'idée que tu ne peux plus le mettre contre. Là, on l'a descendu, il a fait un petit step down en théorie. Il a donné un gars du top 10, pas un gars du top 5. Il a perdu. Fait que là, il faut lui donner un gars du top 15. Mais regarde les monstres qui sont là. Est-ce qu'il va battre ces gars-là? Je pense qu'il peut encore, honnêtement, là, Tony Ferguson, c'est pas un mauvais combattant. Mais ça va lui prendre un gros step back là, s'il veut. Disputer un prochain combat et puis malheureusement pour lui, je sais même pas s'il va le gagner parce qu'il est vraiment vraiment sur une mauvaise trajectoire, puis c'est triste, puis genre sa gimmick c'est présentement de se faire soumettre basically à ses combats, mais de pas taper, puis le armbar contre Oliveira c'était cave, ça a dû faire très mal, le e-look aujourd'hui contre Benil Darius c'est encore plus cave. Pour le monde qui font du joug, qui sont en train d'écouter, vous le savez, c'est quoi d'un e-look. Là. Ça fait mal. Tu n'endures pas un e-look. Souvent, quand un e-look te fait mal, c'est parce qu'il est déjà trop tard. T'sais. C'est comme tu as déjà eu des dommages à tes ligaments quelconques. Puis ça ne veut pas dire que tout est déchiré, il faut que tu fasses opérer et que tu es out pour 15 ans, mais ça veut dire que tu sors. Ouais, c'est pas bien ce qui est en train d'arriver à tes ligaments. Là. Et puis, Tony Ferguson, lui, il a juste crié. mais pas vocalement, parce que s'il crie vocalement, l'arbitre va arrêter le combat. Mais il a montré de la douleur, il a commencé à kicker, il a réussi à s'en sortir, ça, non, mais il s'est fait, il look bien raide. Puis là, je vous check des commentaires, puis tout le monde, Jack Max, Clima Ferguson contre Cerrone 2, t'as Thibault qui nous dit la même affaire, Tony contre Cerrone, Cédric Dubé, Greg m'a texté la même affaire juste après le combat. Honnêtement, je pense que Tony gagne ce combat assez facilement. Là. Pour être franc avec vous, là, parce que, genre, Tony n'a pas encore perdu contre Alex Morono, là, par KO au premier round. Connor Cowboy est fragile, là, fragile. Je pense que Cowboy contre un Diego Sanchez, c'était bien, contre un genre Joe Lauzon. Le plus, genre, jeune que j'irais pour Cowboy, c'est comme Clay Guida, honnêtement. Parce qu'un Clay Guida va sûrement le worker pendant 3 rondes, mais ne va pas vraiment lui passer un KO, bien qu'on pensait jamais vraiment qu'Alex Morono allait le finir au premier round de même. Puis pourtant, c'est arrivé. Mais Alexis dit qu'il dit Tony contre Cowboy. Si ça vous tente, man, mais j'ai juste l'impression que c'est méchant pour Cowboy. Je pense que Tony, oui, est en fall off. Et pas encore assez en fall-off pour se battre contre Cowboy Cerrone. Il y a deux différents niveaux de fall-off. Comme j'ai dit, d'après moi, Tony peut peut-être encore battre un gars du top 15 là, s'il y a une belle soirée. Mais là, tout le monde dans les commentaires dit Tony Cowboy. Donc Tony Cowboy, I guess. Moi, ça me tente pas. Je pense que Cowboy se ferait décolisser dans ce combat-là. Ben, honnêtement. Fait que j'ai pas envie de voir ça. On va parler brièvement des autres combats. Matchnell, Rogerio Bontorin, le gros point bas de la carte, la seule affaire que j'ai à dire sur ce combat-là, c'est que Rogerio Bontorin qui manque le poids à 135 livres quand c'est un flyweight, c'est assez fucked up. Surtout qu'il dit qu'il se promène à 160 quelques livres. Le gars, c'est un flyweight. La weight cut de 40 quelques livres, là, c'est fini ce temps-là, mon Rogerio. Fait que check tes shit, ça n'a pas de crise de bon sens. Et puis, ben, écoute, shout-out à eux parce qu'ils ont réussi à faire un fight plus plate que Caitlin Chookagian. Puis rarement sur une carte où Caitlin Chookagian est, il y a un combat plus plate que celui de Caitlin Chookagian. Mais Schnell contre Bontorin, il a absolument réussi à faire ça. Et puis pour ce qui est de Caitlin Chookagian, ben écoute, peut-être une mini-controverse de scoring ici. Moi, je m'attendais peut-être à une split decision, honnêtement, parce que le deuxième round aurait vraiment pu aller d'un côté comme l'autre. Chookagian a quand même donné le mount pendant une grosse minute à Viviane Araujo. Mais je suis d'accord pour dire que quand le combat était debout, elle a tellement sonné, entre guillemets, dans ce round-là. C'était pas comme le main event, là, loin de là. Mais elle a tellement sonné que j'ai donné ce round-là à Chookagian avec la main qui a eu le troisième. Fait que je pense un 29-28 pour Chookagian dans mon cas. J'aurais pas été contre un 29-28 pour Araujo. L'arbitre, le juge qui a scoré ça 30-27, je sais pas, il habite au Texas, I guess. C'est pas la meilleure commission athlétique du monde. Fait qu'on va parler d'un combat que vous voulez entendre parler ici. Et puis, c'est Shane Burgos contre Edson Barboza. Et puis, man, il y a des combats qui sont bookés dans la vie, puis que tu le sais exactement ce qui va arriver. Puis ça, c'en était un. Tu le sais que ça allait être bon, tu le sais que ça allait probablement, sans aucun doute, selon moi, être le Fight of the Night. Tu peux donner le Fight of the Night au main event, là, honnêtement, s'ils font ça, parce que Chandler a une belle performance, puis tu sais, il y a tellement de finish sur la carte que tu peux donner, mettons, genre, Mooney's, puis Andrea Lee, un 75 000 pour le finish. Mais t'sais, Barboza Burgos vont peut-être se faire voler le style de bonus plus, j'y pense. Mais go, le combat est absolument génial. Edson Barboza est vraiment un très, très bon 145 livres. Puis mon read que j'avais au début de ce combat-là était quand même exact, genre dans le sens que Shane Burgos, il est bon, il est capable de mettre du volume. Va de l'avant, met de la très, très bonne pression sur ses adversaires. Son problème majeur, c'est qu'il n'y a aucune défensive. T'sais, il a un très bon menton, il est tough, il est durable, mais il n'y a aucune défensive, ce gars-là. Il ne prend pas la peine de se défendre. Et puis, ça fait que des fois, il mange un punch. Puis, il parle juste contre les gars qui frappent très fort. Là, Josh Emmett, Calvin Kattar, puis là, aujourd'hui, Edson Barboza. Puis, c'est juste ces défaites-là qu'il y a. Là, basically, il perd contre les gars qui frappent très fort. Barboza frappe très fort. Donc, je m'attendais peut-être à ce qu'il gagne. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Puis, j'ai jamais vu un knockout de même, honnêtement. Là, c'était complètement ridicule. c'était une réaction de knock-out au corps. Tu sais, des fois, le gars, il mange un coup au corps, puis là, il recule, puis là, oh, ça il pogne sous ses nerfs, puis là, il plie, puis il se fait knocker. Lui, c'est le contraire. Il a mangé un overhand directement sur le menton. Il a continué à bouncer, puis quand il est arrivé pour lancer un jab, c'est comme son cerveau a dit, non, tu lances pas de jab, toi, là, t'es knocké, mon tata, là, je sais pas ce que tu penses. Puis là, il est tombé au sol, puis tu l'as vu dans ses yeux, quand il est tombé au sol, il était out cold, là, il avait pas besoin de manger d'autres punch. Fait que vraiment bizarre, sur le coup, je dis, crime, il vient dessus. De tomber, tout simplement, de juste tomber là, puis de crever. Écoute, toute une performance de Tim Barboza. Je pense qu'il gagnait le combat aussi à ce stade-là. C'était peut-être 1-1 les rounds, mais moi, j'avais donné les deux rounds à Barboza parce que je pense que les coups étaient quand même assez égaux, mais... Barboza faisait clairement mal là, à notre ami Shane Burgos. Autant avec les leg kicks, il a tellement kické dans le tibia qu'il s'est complètement fendu la jambe. Il avait la jambe pleine de sang. Edson Barboza, à force de kicker sur Shane Burgos, il y avait les kicks retournés au corps qui étaient super beaux. Fait que belle performance d'Edson. Puis on a Charlie Landry qui demande si on pense que Barboza va monter dans le top 5. Peut-être. Peut-être. Ce qui est le fun à 145 livres, c'est qu'on a vraiment une division de striker. Tout le monde sait grapple. Tu sais, tout le monde qui est à 145 livres sait grapple. Mais quand tu regardes un Max Holloway, un Colvin Kattar, un Yair Rodriguez, même Zabid Magomedsharipov, qui est un incroyable lutteur, aime mieux se battre debout, tu sais, principalement dans ses combats, que se battre au sol. Fait que je pense qu'on a une division ici où Barboza peut avoir du succès parce que t'as pas un genre de Khabib et un Kevin Lee qui vont complètement juste le lutter puis le shutdown complètement. Je sais pas s'il peut avoir assez... Tu sais, c'est vraiment une grosse division, 145 livres. Là, je pense qu'il peut se faufiler au 6e, 7e, 8e rang facilement. Est-ce qu'il va réussir à percer le top 5 en allant battre justement un Korean Zombie ou un Yair ou un Max Holloway ou un Kattar? J'ai mes doutes là-dessus, mais j'aimerais ça le voir. J'aimerais vraiment ça le voir, puis j'aimerais ça vraiment savoir si j'ai raison de penser que je suis pas sûr s'il est capable. Mais bref, on va passer à Jacare Souza qui, pour la deuxième fois de sa carrière, s'est fait casser le bras. Ça y était arrivé au championnat du monde de Jiu-Jitsu avant qu'il fasse du MMA contre Roger Gracie, puis moi, c'est ce qui m'amaise le plus de ce combat-là, c'est la réaction de Jacare. Je le sais que ce qui est arrivé à Chris Weidman, c'est complètement horrible, mais check sa réaction, puis la réaction de tout le monde qui se brise basically un membre dans l'octogone. Ils crient, ils ont mal, tu le vois, ils ont de la douleur. Jacare lui se pète le bras, l'arbitre arrête le combat, jamais tapé, il a jamais tapé, c'est normal, mais c'est normal, tu sais, je dis pas qu'il a jamais tapé dans le sens que il aurait pas dû arrêter le combat, c'est normal qu'il arrête le combat quand t'entends clairement là, le bras, là. Clock straight. Puis je pense pas que c'est une fracture à l'os, c'est peut-être plus une dislocation du joint, mais en tout cas, le bras était pris dans un angle horrible, ça a popé, ça a complètement disloqué, puis Jacare, là, oh, ok, c'est correct, le combat est arrêté, puis là, il fait une caresse à l'autre, puis il jase avec en portugais, parce que c'est deux Brésiliens, comme si de rien n'était, comme au championnat du monde contre Roger Gracie, quand il s'est fait casser le bras dans un armbar comme ça, et puis qu'il a juste fait, bon, ben, that's it, mon bras est cassé, il a pas réagi, puis il a juste passé à la garde, puis il a gardé le top, puis il a finalement gagné le championnat du monde de Jiu-Jitsu avec un bras cassé, parce qu'en Jiu-Jitsu, si tu fais casser le bras, si tu tapes pas, ça a l'air que tu peux continuer à te battre. So, shout-out à lui, mais dans ce combat-là, il allait pas laisser ça continuer. Puis c'est bien, bien, bien correct comme ça, parce que dans un ordre où il faut que tu te serves de tes bras pour frapper, t'essaies de pas frapper sur personne avec un bras cassé, là, il peut se passer des choses assez terribles si tu fais ça. Donc, man, André Mooney, c'est la première personne à soumettre Jacare Souza. C'est un feat absolument incroyable, puis... tant mieux pour lui, je suis vraiment content. Et puis, c'est juste ça que j'ai à dire là-dessus. Vanata contre Mike Grundy. Une autre décision bizarre dans ce combat-là. Je pense que ça a été clairement un combat que Lando Vanata a remporté. T'sais, Mike Grundy, il est bon, mais il me frustre parce que je le pique souvent. Parce qu'il y a plein de choses qu'il fait bien, mais il fait juste pas assez. Il est juste pas assez actif debout. Une fois de temps en temps, il va lander une grosse main droite qui fait mal à son adversaire, mais il en sort deux bonnes par round entre quelques petits jabs si t'es là, quelques petites affaires si t'es là, mais il est complètement inactif, va probablement jamais gagner un combat debout dans l'UFC de par son inactivité. Puis là, Lando Vannata était lui-même un très bon lutteur. Puis un gars qui descendait de lightweight, donc il était plus gros que lui. Donc non seulement il avait comme l'avantage probablement de force physique puis de grosseur, de pesanteur, puis il était un bon lutteur. Donc ça a été pratiquement impossible pour Grundy de l'amener au sol, de le contrôler là. Donc se retrouver debout à pas faire grand-chose, mais quand même bien faire quand il réussit à faire quelque chose. Puis ça fait que, d'après moi, Vannata a clairement gagné. De là pourquoi je comprends pas que ce soit une split decision avec un 30-27 pour Grundy. Le 30-27 pour Vannata fait plus de sens, selon moi. On a un 29-28 aussi. C'est correct. Si tu donnes un round à Grundy ici, là, parce qu'il y a des rounds que je pense... Le premier round, il y a... Je veux pas dire lander des takedowns parce qu'honnêtement, il a juste amené Vannata au sol, puis tout de suite, il s'est relevé debout, puis des fois, il donnait son dos pour se relever, des choses comme ça, mais il a jamais vraiment réussi à l'amener au sol puis à le contrôler dans ce combat-là. Donc, j'étais pas prêt à donner le premier round, surtout que Vannata avait beaucoup de succès debout, mais regarde, si quelqu'un donne un round à Grundy ici et là, ça me dérange pas. Juste pas les trois rounds, s'il vous plaît. Mais comme je vous dis, les juges habitent au Texas. Fait que qu'est-ce que vous voulez faire? Ensuite, Jordan Wright, Jamie Pickett, man, short and sweet, ce petit combat-là. Jamie Pickett, qui est un slow starter, malheureusement. Puis pourtant, quand il met la switch à on, c'est un combattant qui est excessivement agressif, qui lance beaucoup de combinaisons, mais il a starté slow, s'est fait un peu taguer, a lutté, s'est fait faire un paquet de Travis Brown elbow, puis après, ça a été complètement sonné. Puis Jordan Wright, qui est habitué de trouver un moment tôt, au début d'un combat comme ça, où il est capable de livrer du bon power, et puis il l'a fait. Puis après, il a follow-up avec un bon flurry, t'es allé chercher le TKO. Belle victoire pour lui, ça l'avance en division. Pickett, un peu tough, il tombe 0-2 dans l'UFC, pas de jeune, très belle fiche. C'est le gars que ça a comme pris trois fois au Contender Series avant de gagner un combat, puis de recevoir le contrat. Fait que... peut-être avoir une troisième shot. Je pense pas que tu es sur la liste des combattants qui pourraient se faire cut immédiatement après cet événement-là. Parce qu'on s'entend qu'à tous les événements, récemment, ça arrive. Le dernier événement, c'est, je pense, c'est Luke Sanders. Non, c'est le deux cartes. Luke Sanders s'est fait cut le lendemain. Le dernier événement, c'est Maurice Green qui s'est fait cut le lendemain. Donc, ça pourrait arriver à Pickett si j'ai un meilleur candidat. On va en parler dans pas bien long, par exemple, mais... qui sait. Ensuite, Andrea Lee, Antonina Shevchenko. Man, j'étais tellement frustré au deuxième round de ce combat-là parce que Andrea Lee, super beau triangle du mount, se retrouve en dessous, mais est dans le triangle. C'est comme ça que tu veux finir le triangle. Puis après, elle passe 3 minutes à ne pas finir le triangle. Puis, tu sais, Antonina bougeait bien, s'arrangeait pour jamais donner l'angle parfait pour finir ce triangle-là. Mais à un moment donné, j'étais comme frustré un peu. J'étais, tu sais, c'était pas pour finir ton triangle. Fais juste comme le lâcher puis essayer d'autre chose parce que là, clairement, tu vas t'hypothéquer toi-même. Là. Tu vas gazer tes jambes complètement. Tu vas te fatiguer assez parce que, tu sais, quand même si t'es un combattant professionnel, quand t'as une soumission qui est proche d'un boost d'adrénaline là, qui revient, même si c'est dans le combat. Fait que d'avoir un deuxième dôme d'adrénaline après que tu aies forcé comme une malade avec tes jambes pour garder la personne là pour essayer d'appliquer ton triangle choke, ça aurait pu avoir des conséquences assez graves là, pour Andrea Lee dans ce combat-là qui serait sûrement pas été en bonne shape d'après moi s'il y avait un troisième round. Heureusement pour elle, quand elle a attendu avec là, juste 10 minutes, elle s'est juste tannée. Puis elle a l'armbar ben red, chose qu'elle a, ça a été le bras, il a traîné là tout le round. Puis je comprends pas qu'elle l'a pas vraiment fait plus tôt, mais Charlotte, elle a fini par le faire, par le gagner le combat. Et puis je suis bien content pour elle. Ensuite, sur Fight Pass, Gina Mazzani est en train de gagner contre Priscilla Cachoeira. Mais elle faisait un peu du lay and pray. Je dois vous dire, là, c'est pas super chic ce qu'elle faisait. Elle était au sol, puis elle se mettait dans la garde. Elle essayait de passer en demi-garde, mais elle était pas super capable. Puis elle lançait des petits coups, tu sais, body head, là, comme on dit au sol. Du gros lay and pray classique. Puis un moment donné, l'arbitre cette année, il les a relevés debout. Et puis Gina Mazzani était complètement gazée, puis elle s'est fait allumer par Priscilla Cachoeira, qui a gagné par TKO. Puis écoute, tant mieux pour elle. Je sais pas si c'est un bon. Oui, c'est un bon stoppage. Je sais pas si c'est juste, honnêtement, parce que, tu sais, Mazzani gagnait, puis elle s'est fait enlever sa position, puis oui, il y avait de l'inactivité. J'ai déjà vu pire, là, par exemple. J'ai vu du monde beaucoup plus stallé sur le top, et puis ne pas se faire enlever de là. Donc, c'est sûr que c'était à la discrétion de l'arbitre. Peut-être pas l'arbitre le plus patient du monde à ce niveau-là, puis, tu sais, la fille est passée de « je suis en train de gagner le combat 2 rounds à 0 » à « je suis en train de me faire allumer ben raide, je finirai même pas le round, puis à 9 secondes de la fin du deuxième round, ben, elle s'est faite fêter. Fait que c'est ça qui est arrivé. Un autre genre de petite controverse liée au juge barre oblique arbitre dans cette carte-là. Mais on le savait qu'elle allait en avoir au Texas, comme les gars qui vont pocher des tests de weed puis qui vont perdre leur victoire. Là, on devrait faire un pool là, d'ailleurs de qui sont d'après vous les gens qui vont perdre leur victoire après avoir poché un test de weed, parce que oui, au Texas, ils testent puis ils n'aiment pas le weed là-bas en l'air. Mais ceci étant dit, Kevin Aguilar, Tucker, là, tu sais, Kevin Aguilar, c'est lui qui va se faire cut, là. Il avait 3 défaites consécutives, il vient de perdre encore. Pas faux l'essayer, on dirait quand le combat semblait y échapper, il a laissé Tucker, là, tu sais, littéralement se pousser avec ce combat-là. Et puis... C'est ça, il va se faire écoute. Lui, il a fini sa carrière dans l'UFC. Pour Tucker Lutz, c'est un bon début, tant mieux. On est content. Je sais pas si on faut s'exciter pour lui comme le nouveau prospect de la division 55 livres, mais le gars, il est capable d'échanger debout, placer des beaux counters sur Kevin Aguilar, lander des takedowns à des moments très opportuns. Tu vois qu'il est arrivé là avec un très bon game plan, puis une manière qu'il voulait disputer son combat, puis qu'il allait être sûr de gagner s'il disputait ça comme ça. Puis c'est ça qu'il a fait. Fait que, gars, more power to him. On est bien content de l'avoir dans l'UFC, puis de voir la suite des choses dans son cas. Et puis, finalement, le premier combat de la soirée, Christos Giagos, Sean Soriano. Sean Soriano est sorti complètement en feu du gros striking, landed du power, a failli finir Giagos à quelques reprises au premier round, mais Giagos est en mesure de lander un takedown ou deux, puis de rendre ça c'est quand même serré, même si c'était clairement l'avantage de Soriano. Sort au deuxième round, même chose qui se passe jusqu'au moment où Giagos initie un échange de grappling. Ça finit que Soriano se retrouve dans ses jambes un peu, et puis le chum Christos Giagos lock in un excellent darkstroke, un peu out of nowhere, qui finit, puis ça lui fait rapporter le combat, un comeback win dans son cas, parce que t'as de pas en train de gagner, moi, te le dire. Et puis, man, c'était spectaculaire. Ça a bien commencé la carte. Les partisans qui étaient là étaient bien contents de voir ça. Et tout de fuck au fait qu'il y a genre 2-3 combats dans les stands là, au courant de la soirée. Je comprends pas pourquoi, depuis que les fans sont de retour des événements sportifs aux États-Unis, que ce soit à boxe au combat de Canelo ou même le dude, là, on a tout vu le dude le partisan des Padres là, qui a knocké le pauvre dude au Colorado pour... Dieu sait quelle raison, mais puis que c'est fait jump par 13 gars après. Je pense que tout le monde l'a vu, ce clip-là, cette semaine. Mais bref, je sais pas pourquoi, le monde sont complètement crazy aux États-Unis. Et puis, ben... Ça se bat dans les stands, ça se bat dans les stands. J'avais vu une question tantôt, Edret cite Bob Gainer, il nous demande Oliveira contre Khabib, qui gagne? Écoute, plus le temps avance, plus qu'on faut se dire que c'est un match-up très intriguant, étant donné que Charles Oliveira est très, très, très agressif debout, puis on le voit qu'il est prêt à manger du dommage, puis il va tout faire pour survivre. Il a peut-être pas le meilleur menton. Le gars, il est ébranlable assez facilement, mais il a un esprit de guerrier complètement ridicule, puis le gars va toffer, puis va essayer de tout faire en son pouvoir pour pas se faire finir. Fait que il y a ça debout au sol, on le sait, c'est un submission artist absolument hors pair. Mais écoute, honnêtement, Khabib, on ne l'a jamais vraiment vu être dans le pétrin, jamais. Puis à tous les combats, on essaie de trouver là, dans ses adversaires. Oh, mais tu sais, Justin Gaethje, c'est un excellent lutteur, puis il est tellement dangereux debout qu'on pense vraiment qu'il va être capable d'empêcher les takedowns de Khabib. Puis écoute, finalement, personne n'a été capable d'empêcher rien de ce que Khabib a fait tout au long de sa carrière. Donc, c'est sûr que si tu me demandes ça comme ça, j'ai pas le choix d'y aller avec Khabib là, dans ce combat-là. Je pense que c'est probablement lui qui gagnerait. Mais Charles Oliveira, avec des performances comme ça, son debout qui s'améliore constamment, commence pas, en fait, ça fait quelques années là, qu'il finit des gens debout et qui même, tu sais, plusieurs de ses derniers, ses submission wins les plus récents, c'est qu'il a complètement allumé le gars, puis là, le gars le panic wrestle, puis il te l'a choqué avec un dorse, un anaconda, une guillotine, des choses comme ça. Il y a beaucoup de ses soumissions récentes que c'est ça. Donc, c'est sûr que Charles Oliveira, d'après moi, aurait de quoi donner à Khabib, de là à gagner contre lui, je ne crois pas, honnêtement. Fait que c'est pas mal ça. On va revenir brièvement sur le main event. Combat absolument délirant entre Charles Oliveira Et Michael Chandler, Chandler qui a passé proche de gagner le titre, après il a passé proche de perdre le titre, après il a passé proche de gagner le titre, mais il a passé proche à ça, là, à ça. Puis là, le round a fini, puis après il a perdu. Fait que tabarnouche, tout un main event, des momentum swings, genre tu sais, 4 momentum swings dans un combat qui a duré précisément 5 minutes et 19 secondes. C'est un main event for the ages, on savait que ça allait être un très beau combat, ça a été un très bon combat. Et puis Charles Oliveira est le champion, la suite pour lui, écoute, peut-être que je vais essayer d'y penser. Là, j'étais à job en ce moment, là, honnêtement, je suis content que j'avais pas eu genre d'appel pour aller aider un client à sa chambre ou de quoi là, pendant que je suis en train de vous parler, parce que ça aurait été un peu weird de laisser le live stream libre de même à l'air pendant 10 minutes ou 5 minutes pendant que je m'envoie aider un client. Fait que heureusement, c'est pas arrivé, mais tu sais, la suite des choses, je pense que tu fais un title eliminator entre le chum Benil Dariush et le chum Justin Gaethje. Tu fais ça vers la fin de l'année. Dariush, c'est ça qui semblait dire, là, qu'il va avoir un enfant, veut s'occuper de son enfant un peu, vivre la vie de dad et revenir vers fin de l'année, début de l'année prochaine. Fait que c'est parfait. On a la trilogie Conor Poirier cet été, le gagnant de ça, en espérant que ça soit Dustin pour que ça niaise pas le processus du title match. Parce qu'on sait que si Conor gagne, ça va niaiser, ça va être long avant que ça soit booké. Puis ça peut prendre un an avec Conor, on sait jamais. T'sais. Quand il se met à niaiser puis à négocier, puis à décider d'aller faire d'autres choses, on ne peut pas vraiment le retenir. Je pense que non, c'est ça. Tu donnes le gagnant de McGregor Poirier à Charles Oliveira dans sa première défense, puis tu set up tout de suite la deuxième défense ou le gagnant. Parce que je pense que le gros match-up qu'on veut entendre parler, qu'on devrait parler de ce soir, c'est Charles Oliveira contre Dustin Poirier. Là. Moi, honnêtement, c'est ça que j'ai envie de voir Dustin dans ses derniers combats, c'est contre Conor. Puis, en fait, avant de se battre contre Khabib, puis depuis son combat contre Khabib, il a montré qu'il ne se faisait pas vraiment mieux dans la division lightweight que Dustin Poirier. Il est amélioré dans tous les aspects du combat. Il est de plus en plus durable. Son cardio est absolument épique. Et puis, c'est ça que j'aimerais voir, moi, honnêtement, là, Poirier, Oliveira. Mais il reste un combat à gagner à Dustin avant ça. Fait que ça va être ça, je vais vous laisser là-dessus. On va en parler plus demain midi au iPoke Podcast avec le chum Greg, de ce qu'on veut voir, de ce que Greg a pensé de toutes ces choses-là. Puis on va parler des nouvelles de la semaine, de Samouraï, même de toutes les affaires qu'on va vous parler demain au iPoke Podcast. À midi, soyez là. Ça se peut que je sois un peu poqué parce que là, je travaille jusqu'à 7h, je m'en viens chez nous, je me couche un peu puis je me réveille pour le podcast. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais on se parle demain pour le iPoke Podcast. Merci d'avoir été à l'écoute, bande de petits mocassins jaunes de la Sainte-Afrique du Sud. Et puis, faites-vous pas manger par un crocodile marin.